L'écho des gnous, votre guide dans le monde libre. Sur Radio Campus 106.6, le libre n'est pas une jungle. Le libre n'est pas une jungle comme le logiciel privateur. L'écho des gnous.
Bonjour et bienvenue dans le 292e numéro de l'écho des gnous, l'émission qui vous explique l'informatique libre. Ce soir, comme toutes les deux semaines, je suis avec Pierre. Bonsoir Pierre.
Bonsoir.
Qui cette fois-ci a pris la bonne référence horaire histoire de ne pas prématurément couper l'émission et me couper en plein pendant nos au revoir. Et c'est l'occasion de vous dire bonjour une nouvelle fois. Et on va donc commencer par des actualités internet et vie privée. Et le sujet du moment, Cocorico, il est chez nous, c'est les réseaux sociaux. Alors il y a une vague de projets de loi d'interdiction des réseaux sociaux au moins de 14, 15, 16 ans. Ça dépend des pays. En France, c'est visé, c'est 15 ans. Et bon, alors l'attention peut être louable parce que bon, c'est vrai qu'on dit souvent... il faut éduquer ses enfants et que voilà, il faut être présent et c'est le rôle des parents. Sauf que un enfant, ça devient quand même vite autonome. Hein. Puis on s'en rend compte vite qu'en fait, un enfant a vite son autonomie. Les premières années, on peut effectivement ne pas acheter de smartphone. Il y a un moment. Ça devient compliqué, il y a la pression sociale et puis il y a la débrouillardise aussi des petits loulous.
Et il y a aussi, il faut quand même pas l'oublier, on n'est pas en train de parler d'éduquer les enfants face à, à quelque chose qui n'est pas conçu contre eux.
En tout cas, l'argument massue...
Les réseaux sociaux sont conçus pour les capturer.
On le verra d'ailleurs plus tard.
C'est une bataille qui est disproportionnée. Demander juste aux parents de le faire, on peut comprendre que ça... Ça marche pas.
En tout cas, moi, l'argument massue, les parents ont qu'à surveiller leurs enfants. Soit ils n'ont pas d'enfants, soit ils ont eu des enfants il y a longtemps.
Oui. Ouais. C'est plutôt c'est vrai. Que... Oui, ils n'ont pas été enfants eux-mêmes non plus. Parce que...
Peut-être. Ouais, il y en a certains, quand on voit certaines remarques, on peut se poser la question s'ils ont été adolescents un jour. Enfin bref, donc, projet de loi de l'Assemblée nationale sur donc, l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Ce qui, première définition, qu'est-ce qu'un réseau social ? Alors, a priori, les médias collaboratifs tels que Wikipédia sont nommément exclus.
Heureusement.
Qu'est-ce qui reste dans les autres médias sociaux, ça reste compliqué à définir.
Donc, notamment, ce qui est passé dans le texte, si je ne me trompe pas, c'est que un décret devra.
Est-ce que Pronote est un réseau social ? Pardon.
Un décret devra lister les plateformes visées sur avis de l'ARCOM, mais sans lister les critères de sélection. Donc. C'est une bonne interrogation. Mmh. Qu'est-ce qu'un réseau social ? Et donc, du coup, qu'est-ce qui sera bloqué ? Est-ce que linuxfr.org sera bloqué ? Est-ce que c'est un réseau social, hein, en quelque sorte ?
Les forums. Hein,
les forums en ligne, de manière générale, sont des formes de plus anciennes.
Il y a des vrais problèmes. On ne va pas nier qu'il y a des problématiques de harcèlement. Alors, ça a toujours existé. Hein. Le harcèlement scolaire, on fait mine de le découvrir là depuis quelques années. Alors, c'est vrai qu'avant,
oui,
ça restait. Voilà, il n'y a qu'à voir la guerre des boutons, enfin, genre de. Hein, ou même des ouvrages précédents. Mais c'est vrai que là où ça s'arrêtait à la porte de l'école ou du quartier pour les moins chanceux, là, c'est vrai qu'il y a une caisse de résonance. C'est comme tout, hein. En fait, les réseaux sociaux n'ont pas inventé de comportement humain. C'est vrai que la caisse de résonance est plus forte,
plus
comme pour la sécurité. Il y a toujours eu des affaires sordides, des faits délinquants. Sauf que, voilà, maintenant, c'est exposé beaucoup plus facilement.
Et donc, la suite, parce que on a la première question, qu'est-ce qu'un réseau social, du coup, d'où qu'on bloque ? Et la deuxième section,
comment qu'on bloque ?
Alors, comment qu'on bloque ? C'est facile. C'est plutôt, comment qu'on détermine qui on bloque ? Parce que comment qu'on bloque, c'est facile, tu dis non. Voilà.
Bloquer un site, c'est
pas très dur.
C'est pas très dur, mais est-ce que ça obligerait donc du coup à présenter une pièce d'identité pour accéder aux réseaux sociaux ? Est-ce que tu as envie de filer. Pas grand monde qui a envie de le faire pour des sites pornographiques. Bon, ça encore, c'est pas trop gênant, mais bon, pour des réseaux sociaux où on est susceptible de. se poster. Même pas dire à son corps défendant, parce qu'on a toujours le choix. Mais bon, des fois, on peut pas non plus faire abstraction du monde qui nous entoure. Ça crée certains problèmes.
Et donc, l'une des idées, ça serait d'utiliser l'application France Identité, qui servirait du coup à vérifier l'âge et qui fonctionnerait à la fois pour donc, les sites pornographiques, parce qu'on en a déjà parlé à plusieurs reprises, il y a une interdiction des sites pornographiques aux mineurs. L'État l'impose sans dire comment qu'on vérifie l'âge.
Et moi, venant du Pas-de-Calais, une telle discrimination envers les mineurs, pardon. Je suis désolé. Merci. Il faudrait que je la fasse. Je suis désolé.
Voilà. Donc,
deux ans, je me retiens.
Donc, il y avait une première problématique donc avec les sites pornographiques qui sont bloqués, où on leur dit vous débrouillez pour vérifier l'âge, mais vous n'avez pas le droit de récupérer les cartes d'identité des gens. Hein, attention. C'est compliqué. Et donc, on en a déjà parlé dans cette émission, il y a tous des intermédiaires qui sont apparus pour essayer de fournir ce genre de service, mais ils sont d'une fiabilité approximative. Et donc là, l'idée, c'est de passer par France Identité, qui est une application pour iOS et Android, disponible sur Google Play et Apple App Store, hein, évidemment. On ne va pas vous la fournir directement. Hein.
Et si vous consultez depuis un site web, enfin, si vous ne créez pas votre compte depuis une application mobile. Parce qu'après, l'autre question, hein, c'est bien. Du coup, la vérification serait lors de la création du compte.
Alors, France Identité serait reliée à la carte d'identité, aux cartes, au permis de conduire, ce genre de choses.
Est-ce que c'est la vérification se fait à la création du compte ou à chaque connexion? Je suppose la création du compte.
Bah, normalement, à la création du compte sur les réseaux sociaux, je suppose. Ça, par contre, ce sera à chaque plateforme de déterminer. Ils doivent vérifier l'âge des utilisateurs. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent vérifier à chaque connexion, heureusement.
Ah oui, et du coup, c'est comme une grosse faille.
C'est-à-dire, si le compte existe déjà.
Non, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un trafic de comptes.
Ah oui, tout à fait. Bah oui, pourquoi pas.
Un peu sur le modèle. L'aîné de 18 ans, il va aller chercher des cigarettes pour les petits.
Ouais, moi j'allais prendre comme exemple le partage de compte Netflix ou équivalent. Hein.
Je suis peut-être vieux jeu.
Ouais, ça fait vieux jeu. Mais du coup, la question avec France Identité. Ben, c'est aussi l'anonymat. Est-ce qu'on veut que des services de l'État soient au courant des sites que vous fréquentez, y compris un site pornographique, parce que c'est au-delà des sites...
Il y a deux choix. C'est soit la plateforme qui connaît votre identité, soit l'État qui sait où est-ce que vous allez naviguer.
Voilà. Alors,
c'est l'un ou l'autre.
Ils souhaitent mettre en place un système dit de double anonymat, mais il est extrêmement compliqué d'avoir un système où vraiment personne n'est au courant. C'est pour ainsi dire, c'est impossible. S'ils veulent vraiment du double anonymat, il faudrait que la plateforme demande à un tiers de demander à un tiers de vérifier votre identité. Et ensuite, lorsque votre identité est vérifiée, donc ce deuxième tiers répond au premier, donc ça c'est bon. Et ce premier tiers est capable de dire, ok, donc là j'ai eu une demande, la demande que vous venez de me faire, c'est valide. C'est compliqué à mettre en place. Et même ça, c'est encore faillible. Et personne ne le fait. On va se le dire franchement, personne ne met en place un système aussi complexe. Surtout, ben, ça peut tomber en panne. Enfin, c'est trop fragile. Et ben, dans le cas de France Identité, il n'y a pas de double anonymat. Alors, en plus, ils mettent en avant le fait qu'il y ait du double anonymat, ce genre de choses. Non, c'est pas anonyme du point de vue du RGPD. C'est une grande confidentialité, certes. Et la CNIL dit, ça protège au mieux la vie privée. On a fait ce qu'on a pu. Donc on n'est pas non plus sur.
On voit ce qui se passe aux États-Unis et oui. les gens qui pourraient arriver au pouvoir en France. Enfin déjà ceux qui sont au pouvoir sont déjà pas trop mal au niveau vie privée. Mais ce qui pourrait arriver en France, voilà, ce genre de technologie et ce genre de données enregistrées, ce qu'on peut faire avec. Parce que si vous n'avez rien à vous reprocher, il y a des gens qui auront peut-être des choses à vous reprocher. Et donc là. Tête de série en termes de réseau social chez les adolescents. Alors j'ai dû voir 2-3 vidéos, j'ai dû faire des recherches de vidéos. Et c'est vrai que de signe des temps, au lieu de tomber sur YouTube, de plus en plus on tombe sur TikTok. Alors j'ai déjà vu des vidéos TikTok sans avoir à me connecter. En tout cas, j'ai jamais eu de compte TikTok, mais c'est quand même, paraît-il, hein, parce qu'on est, on n'est pas tout jeune et on n'a pas encore d'enfants qui ont l'âge d'utiliser ces plateformes, c'est quand même le réseau social numéro 1 chez les adolescents, c'est, je viens de le dire, TikTok.
Tout à fait.
Et TikTok a été conçu pour être addictif. Alors, tu avais déjà parlé hein, de la. Pas l'organe de la récompense.
Le principe d'appuyer sur le bouton de la récompense dans le cerveau. Donc, la dopamine.
Le thème. Oui.
Appuyer au bon endroit pour que le cerveau il soit content. Mais le cerveau, il est très primitif. Quand il en veut encore. Et encore. Et encore. Et encore. Et encore. Et encore. Et toutes les plateformes sont conçues sur ça. Mais apparemment, TikTok l'est encore plus. Et donc là c'est cette semaine, c'est ce vendredi, la Commission européenne, je cite donc un communiqué, la Commission européenne a conclu à titre préliminaire que TikTok enfreignait la législation sur les services numériques en raison de sa conception addictive. Cela inclut des fonctionnalités telles que le défilement infini, la lecture automatique, les notifications push et son système de recommandation hautement personnalisé.
C'est ça qui en fait la différence par rapport à des typiquement. Alors si vous utilisez un réseau type Twitter, Blue Sky qui est son clone moins toxique. Bon, si vous utilisez la version de base, bon pas la version avec la recommandation algorithmique, mais celle où vous suivez des comptes, bah et à bout d'un moment, vous avez tout regardé. Et c'est vrai que je crois que c'est Facebook aussi qui fait ça. Hein, c'est que tant que vous pouvez défiler autant que vous voulez, le nombre d'entrées n'est pas infini, mais avec le volume qu'il y a, c'est tout comme.
Tout à fait. Et donc, la commission estime que la plateforme aurait dû prendre en compte l'utilisation compulsive, le temps que les mineurs passent la nuit sur les réseaux sociaux, etc. Et tout ça n'a pas été pris en compte. Et donc, pour la commission, les fonctionnalités de TikTok, je cite, « alimentent l'envie de continuer à défiler, de déplacer le cerveau des utilisateurs en mode pilote automatique ». De plus, TikTok ne semble pas mettre en œuvre des mesures raisonnables, proportionnées et efficaces pour atténuer les risques découlant de sa conception addictive. Donc, la commission veut que TikTok modifie son fonctionnement de base. Reste à voir ce qui va se passer, sachant que, il pourrait condamner TikTok à des amendes allant jusqu'à 6% du chiffre d'affaires mondial. Donc, à suivre.
Alors, les réseaux sociaux, c'est la grande menace qui plane sur nos chères têtes blondes. Parlons de la menace qui planait sur nous, Pierre. Les jeux vidéo qui nous rendaient violents, agressifs, et comme les dessins animés du Club Dorothée. C'est pour ça que moi je suis toujours assez circonspect sur ce genre de choses. Alors, il y a des choses prouvées, c'est vrai, mais bon, on nous a toujours expliqué que la télévision nous rendait stupides et que, voilà, il y a 30 ans, les adultes disaient ils sont effarés de l'usage que font les enfants de la télévision. Bon, quand vous regardez qui regarde la télévision, maintenant, majoritairement, c'est assez rigolo. Peut-être que, effectivement, maintenant, il y a un peu plus de. Le jeune public est un peu plus visé, nommément, et bon, on peut revoir ça. Mais, tu vois, typiquement, les discours culpabilisants sur les écrans. Voilà, je vois toujours qu'il y a toujours une menace, que ce soit la musique, le rock, le rap, ou même les livres subversifs avant. Mais là, le sujet qui... Le vrai, la menace de nous, notre époque, c'est les jeux vidéo.
Tout à fait.
Et heureusement que nous avons un président jeune qui s'est défait de toutes idées reçues sur la dangerosité des jeux vidéo, puisque c'est pas lui qui ferait interdire des jeux vidéo. N'est-ce pas, Pierre ?
Tout à fait. Donc, effectivement, notre Manu Militari a fait une interview auprès de Brut. Et en gros, il estime que, outre le fait d'avoir parlé de l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans, voilà, il estime que la violence qui s'installe dans la société des plus jeunes est aussi liée au fait que les enfants, les adolescents sont beaucoup plus exposés à de la violence dans des vidéos qu'ils vont voir sur les réseaux sociaux ou dans les jeux vidéo qu'ils vont faire.
Alors, fun fact, je sais qu'il y a 20 ans, 25 ans j'étais au collège, il y a 25 ans, il y avait un gendarme qui était parqué pour faire la prévention et me dire, vous savez, nous on voit quand la veille il y a un film de Bruce Lee qui passe à la télévision, les enfants ils n'arrêtent pas de se bagarrer. À l'époque, c'était plutôt les films violents. Mais alors, attention, il y a quand même un système de classification qui existe depuis longtemps, le système PEGI.
Pour les films comme pour les jeux vidéo.
Surtout pour les jeux vidéo, d'ailleurs.
Et accessoirement, il y a le jeu Fortnite qui a été cité. Alors, je ne vais pas défendre ce jeu en particulier, je m'en fous. Mais ce n'est pas un jeu spécialement gore, il me semble. C'est pas un jeu. Alors, c'est un jeu de tir.
J'ai pas cette image non plus, mais c'est vrai que en jeu en ligne multijoueur, on est assez inculte, Pierre et moi. En tout cas, sur
Fortnite, c'est un FPS. Donc c'est un FPS qui a été développé par Epic Games. Je suis en train de chercher sa classification PEGI là actuellement parce que justement j'ai oublié de la noter avant.
Je suis tellement tellement pas ma génération que je confonds un FPS et un jeu multijoueur, tu vois.
Ah si, non, mais c'est les FPS sont en général multijoueurs ou alors tu joues contre l'ordinateur. C'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. On va l'avouer, jouer contre l'ordinateur, ça t'entraîne, mais au bout d'un moment.
Donc PEGI 12, Pierre.
PEGI 12, voilà, c'est pas le jeu ultra violent. Alors certes, c'est un jeu de tir, oui, mais c'est pas non plus le jeu le plus violent qui soit. Là, en plus, il prenait en exemple le cas d'un adolescent qui a poignardé sa professeure, il avait 14 ans et il jouait à des jeux violents, dont Fortnite. Ah ouais, mais il avait l'âge.
Ça se trouve, il jouait au foot, peut-être aussi.
Et en fait, ben c'est effectivement...
Il regardait la télé. Ah, peut-être pas. En fait, à cet âge-là, ça regarde peut-être plus la télé.
Là, l'avis de Manu, c'est qu'il faudrait aller plus loin que le PEGI et du coup, juste interdire les jeux vidéo violents ou autres.
Alors, comment tu vas interdire les jeux vidéo? Alors maintenant, c'est vrai que c'est de plus en plus en ligne.
Comment tu définis, déjà, qu'est-ce qu'un jeu vidéo violent? Est-ce que tu dirais, ben non, si c'est PEGI 12 ou plus, ben non, c'est interdit.
Un jeu de foot, on peut faire des tacles par derrière et ça, c'est violent.
Ah oui, tout à fait. Non, mais il y a des vraies interrogations sur ça. Il y a des vrais sujets, mais c'est pas en les abordant comme ça que ça va fonctionner. On peut pas juste traiter les choses de cette façon-là. Il faut un minimum de finesse.
C'est pas moi qui aurais joué à GTA à l'âge de 12 ans.
Oui, moi non
pas
plus.
Pas du tout. Oh là.
Et ça fait nous. Du coup, moi, à chaque fois que je vais en ville, moi, je prends une voiture, j'ouvre la porte et je la conduis directement. Voilà, j'appuie sur la touche F. C'est comme ça pour rentrer.
Et même pas besoin des clés.
Voilà. Donc non, il y a un sujet sur l'exposition de la jeunesse à la violence, éventuellement, mais c'est toujours la même chose, effectivement. Avant, il y a eu les films, il y a eu les jeux de rôle, tout était perversion de la jeunesse, et en fait, hein, c'est juste le bon vieux gros discours conservateur.
C'était pareil, c'était le rap, le rock, le livre de Jules Verne aussi. Hein. Enfin, on dirait quand même c'était ce genre de discours, c'était tenu par des enseignants ou des enseignantes un petit peu vieux.
Oui.
Pourquoi comment ça aurait pu influencer Emmanuel Macron? On va passer à de la musique et on va écouter Juan Carrizo, El Immortal. Vous écoutez les Codignous sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campuslibre.com. C'était Juan Carrizo, El Immortal. Vous écoutez l'Écho des Gnous sur Radio Campus. C'est la deuxième partie des actualités. On va parler actualités logicielles et logiciels libres. Et on va parler du petit challenger dans les interfaces graphiques. Hein. Vous connaissez les deux poids lourds, hein, KDE et GNOME. Et on va parler d'XFCE, donc plus léger hein, de réputation, hein, qui permet notamment de... qui est embarqué souvent dans les distributions Linux destinées aux PC un petit peu plus anciens, un petit peu moins performant. Et donc XFCE prépare XFWL pour son arrivée sur Wayland. Ça paraît obscur, mais avec Pierre, ça le sera encore pire. Non, c'est pas vrai.
Donc oui, on a déjà parlé, alors on en parle cette émission depuis plus de 10 ans, de la transition des ordinateurs Linux de X11 à Wayland, à un nouveau système pour gérer l'affichage à l'écran qui soit plus performant, plus léger, ceci, cela. Mais jusqu'à maintenant, il y avait surtout les deux grands environnements de bureau que sont KDE et GNOME qui avaient fait la migration vers Wayland parce que c'est un sujet qui est assez conséquent. Et les outsiders, les XFCE et consorts, je n'ai même pas m'amuser à citer les GNUSTEP ou autres, on est vraiment sur des outsiders extrêmement loin. Mais donc XFCE restait pour jusqu'à maintenant en X11 et il y avait un problème, c'est que il y avait personne qui travaillait sur une version Wayland d'XFCE. Et donc ça a changé, c'est la fondation, c'est l'équipe XFCE qui a annoncé avoir réussi à rassembler les fonds pour qu'un développeur travaille sur une version Wayland d'XFCE. Donc ça sortira, normalement ils espèrent sortir une première version de développement courant de l'année. Mais donc pour les utilisateurs de XFCE ou les utilisateurs de vieux ordinateurs sur lesquels vous voulez faire fonctionner une version de Linux qui soit plus légère, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça va permettre éventuellement de migrer plus de machines vers un système plus récent, plus moderne et plus robuste. Donc voilà, juste ça. C'est une bonne petite nouvelle de voir aussi qu'il y a de la vie encore en dehors de KDE et GNOME parce que ça s'est quand même raréfié ces dernières années.
Déjà, tu avais regretté lors des précédents FOSDEM qu'il n'y ait plus trop en fait, de place pour les projets de desktop.
Non, il n'y en a toujours pas. Ça n'a pas changé, ça, malheureusement.
Et comme projet emblématique du livre, il y a LibreOffice qui est sorti dans la version 26.2. Et Pierre, tu viens de dire en quoi elle est encore plus mieux que celle d'avant.
Ils ont enlevé le Community Edition dans le nom. C'est bien ? Non, bon. Ils ont effectivement, ça c'est un changement de nom qui est relativement mineur. Mais après, il y a eu quelques petites améliorations à droite, à gauche. Comme d'habitude, c'est pas des versions majeures de LibreOffice à chaque fois, c'est de l'évolution progressive. Donc il y a de l'amélioration de performance, du support de nouvelles fonctionnalités, ce genre de choses. C'est de l'éparpiller, c'est un peu de tout. Donc, il y a des fonctionnalités qui pourront peut-être servir, par exemple l'import de fichiers JSON directement dans le tableur. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le JSON c'est un format d'échange qui est utilisé sur le web notamment. Pareil pour l'import d'XML, il y a des améliorations sur ça. Il y a des améliorations de performance, des petites améliorations d'interface à droite à gauche. La routine pour...
C'est vrai qu'importer du JSON, le CSV, c'est vrai qu'on le fait souvent, mais...
Du JSON, ça peut arriver, et c'est très chiant, en fait, quand ça se produit de pas avoir d'outils. Donc ça, c'est le genre de changement qui est bienvenu. Après, il y a une fonctionnalité qui a été supprimée, je suis extrêmement triste de la voir disparaître. Ils ont supprimé l'assistant de conversion en euros.
Oh. Ouais, t'es obligé de faire, donc, du coup, une formule... Le calcul, la
division par 6, 55, 957 et autres, selon les différents pays, c'est un drame.
Ou c'est un drachme, si c'est la monnaie grecque.
Exactement. Donc oui, la fonctionnalité, elle avait été introduite en 2001. Je pense que ça ne servait plus à grand chose.
Ça s'appelait déjà OpenOffice en 2001 ou c'était encore StarOffice?
2001, c'était OpenOffice déjà.
C'était déjà OpenOffice.
En fait, StarOffice existait encore, mais c'était OpenOffice à l'époque. Le projet OpenOffice existait déjà. Bref, voilà, c'est une petite mise à jour. N'hésitez pas à mettre à jour sur vos Windows et sinon à attendre juste l'arrivée de la mise à jour dans vos distributions Linux.
Après LibreOffice, Firefox, on vous en avait parlé en décembre, le nouveau Chief Executive Order, l'équivalent du... Alors, c'est toujours compliqué de traduire CEO, des fois c'est directeur général, des fois c'est PDG. Enfin bref, le nouveau chef de Mozilla avait dit qu'il attendait beaucoup de l'IA et qu'il voulait adapter Firefox à l'IA. Ce qui n'a pas spécialement plu, je dirais, à la communauté d'utilisateurs. Et donc, dans la prochaine version de Firefox 148 qui sortira le 24 février, il y aura un bouton en fait, qui permettra de désactiver directement toutes les fonctionnalités liées à l'IA, hein, kill switch, comme on dit en bon français.
Tout à fait. Et alors, c'est triste qu'ils aient à le préciser, mais c'est très bien que la précision soit là. Ils indiquent que ce kill switch, donc, on peut le régler une fois, et même à travers les mises à jour, le choix continuera d'être respecté. Incroyable, mais vrai.
C'est une plaie, des fois, hein, les logiciels qui se mettent à jour et qui réinitialisent vos paramètres.
Oui, mais Firefox n'a jamais eu cette tendance-là, et là, ils se sentent même obligés de dire non, mais vous allez pouvoir le désactiver, et ça va rester désactivé. Donc, ce qu'il y a vraiment de bien, c'est que.
On va
vous
pas se shitifier.
Voilà, et vous allez pouvoir désactiver tout, y compris les futurs éléments qui seront ajoutés, et dans tous les cas, vous pouvez aussi, tout de même revenir et juste activer une fonctionnalité qui vous semblerait utile. Par exemple, vous trouvez la traduction utile dans le navigateur, et bien vous pouvez juste garder la traduction active. Aussi simple que ça. C'est bien, c'est vraiment, là pour le coup, c'est bien d'avoir fait ça. C'est extrêmement bien, et ça rassure sur l'avenir de Firefox qui ne partent pas à fond dans l'IA sans réfléchir à leur identité, à ce à quoi sert Firefox finalement pour tout le monde.
FreeType améliore ses performances par 40%. Dans certains cas. Alors, qu'est-ce qu'améliorer les performances d'une police de caractère, Pierre ?
Alors, ce n'est pas les performances d'une police de caractère, mon ami. C'est les performances de FreeType tout court. Donc, voilà. Et en plus, pourquoi qu'on en parle d'un truc aussi obscur ? Ça, c'était juste pour montrer qu'il y a encore tout un monde qui existe, mais qui n'intéresse plus grand monde, en tout cas, qui n'intéresse plus les professionnels, malheureusement. C'est le monde, effectivement, du desktop, du bureau, de l'affichage de pages web, ce genre de choses. Enfin, de l'affichage d'applications, et pour afficher du contenu, que ce soit une page web, une application ou autre, qu'est-ce qu'on affiche toujours à l'écran ? Du texte. Des mots, avec des caractères dedans. Et on l'affiche en fonction de différentes polices de caractères pour choisir le type d'affichage qu'on a, voilà, ça a toujours fonctionné pareil. Sauf que votre écran, il est fait de pixels, et donc il faut convertir du texte, mettons la lettre A, il faut convertir en un ensemble de pixels, et donc on dit ben, A, ça correspond à telle police de caractère, dans la police de caractère, ça correspond à telle description de ce qu'il faut dessiner. On veut le dessiner sur un espace qui fait telle taille, et donc on le dessine comme ça. Et il y a tout un ensemble de règles, c'est un domaine qui est très complexe. Et ben, il y a des cases pour certaines polices de caractère où ben, il y a des performances, des améliorations de performance qui sont toujours possibles, et là, ça, on monte à 40% d'amélioration de performance, et ça, c'est pas une entreprise, c'est pas un Google ou autre qui a financé, non, c'est un développeur indépendant qui a fait ça.
Et c'est pour ça que je veux le pointer. Ça s'est manifesté comment, ces 40% de performance?
Ben, ça va pas se voir, mais par contre, ça va faire que l'ordinateur va travailler moins pour afficher le même texte, donc ça, le plus concret, c'est que ça fait une diminution infime, mais une diminution quand même de la consommation d'énergie de la machine. Aussi simple que ça. Sinon, ça peut être aussi sur du défilement dans une page web ou des trucs comme ça, ou l'affichage de longs textes complexes, où là, ça peut se ressentir en étant un peu plus rapide sur un truc qui prend 2-3 secondes. Ça peut en enlever 40% de la partie conversion de caractère. Ça peut se chiffrer en quelques centaines de millisecondes. Ça rend quand même certains usages plus agréables en bureautique.
Les MacBooks basés donc sur une architecture M3 peuvent désormais booter jusqu'au bureau. KDE, est-ce une bonne nouvelle ? Tu te poses la question, Pierre.
Tout à fait. Je trouve que c'est un bon rappel de... Comment dire ? Du faux enthousiasme qu'il y a eu à une époque. Donc, lorsque Apple, il y a 6 ans, 5 ans, je ne sais plus, je crois que c'est peut-être 6 ans, Apple a annoncé arrêter de faire des machines sur processeurs Intel et passer à des processeurs ARM, donc des processeurs ARM maison, les M1, 2, 3, 4, 5, etc. Et tout de suite, il y a eu un engouement en disant « Oh, c'est trop génial, et Linux on va faire une version de Linux sur ces machines Apple, et ça sera trop bien. » Alors, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait pour que, effectivement, Linux commence à bien fonctionner sur les machines avec les processeurs M1 et M2. On va pas le nier, il y a eu un travail incroyable qui a été fait sur tout ça. Ça commence à plutôt bien fonctionner. Là, c'est la première fois qu'on a un environnement de bureau qui apparaît sur les machines Apple de type M3. Les M3 sont sortis en 2023.
C'est-à-dire qu'il a fallu quand même
trois ans. Il a fallu trois ans pour réussir à avoir un affichage à l'écran sur ces machines. Ce qui implique... Alors, je crache pas sur tout le travail qui a été réalisé, attention. C'est un travail énorme qu'il faut réaliser pour faire tout ça. Et c'est, par contre, c'est ce que je pointe. C'est un travail colossal de supporter ce genre de machine, parce que on n'a pas la documentation, Apple n'aide pas là-dessus, Apple ne fournit aucune doc sur comment ça marche, comment communiquer avec la machine, sinon ça irait beaucoup plus vite. Mais surtout, ce que je voudrais, c'est freiner l'enthousiasme, on va dire, de certains qui disent « Ah ben, je vais prendre cette machine-là, et puis comme ça, dans 6 mois, Linux sera supporté dessus et ça marchera. » Dans le cas des machines Apple, ce n'est pas du tout le cas, parce que c'est beaucoup trop spécifique, ça ne fonctionnera jamais comme ça. Là, si vous achetez aujourd'hui une machine avec un... Alors, je sais plus, je crois qu'ils en sont au M5 maintenant. Est-ce que... S'il faut attendre 5 ans pour que ce soit supporté, votre machine, elle fonctionnera peut-être sous Linux en 2030, 2031. C'est loin, c'est très loin. Et c'est normal que ça prenne du temps aux développeurs. Alors, si vous êtes capable de les aider, que vous avez du coup l'argent pour acheter le matériel, le temps pour faire tout le développement et les compétences, allez-y. Mais il ne faut vraiment pas s'attendre à ce qu'il y ait de la magie. Alors, c'est une bonne nouvelle pour les gens qui ont ces machines-là ou qui veulent en récupérer et qui veulent les passer sous Linux, mais... Même là, actuellement, c'est extrêmement limité.
Alors que ça s'est simplifié avec les Mac Intel et ça s'est recomplexifié avec l'architecture.
Ça s'est pas simplifié tant que ça avec les Mac Intel. C'est juste que c'est devenu possible de faire tourner n'importe quelle distribution à l'époque. Mais les distributions Linux pour Power
existaient. Oui,
elles existaient déjà. Les Debian.
C'est vrai que je me souviens. Il y avait les quand Ubuntu là.
Les PowerDog Linux et autres fonctionnaient à l'époque.
C'est vrai que quand Canonical inondait de DVD de Linux, il y avait à la fois des DVD pour x86 et des DVD pour PowerPC. C'est vrai. La dégeekalisation, c'est après un deuxième morceau de musique. Nous allons écouter John Wolfie, Don't Run Away. Vous écoutez l'écho des Gnous sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campuslille.com. C'était Chandler Fee, Don't Run Away. Vous écoutez les codes nous sur Radio Campus. C'est l'heure de la séquence que vous attendez toutes et tous. C'est l'heure de la dégeekalisation. Pierre, on va parler aujourd'hui de souveraineté et de quoi qu'on cause, surtout en ces temps troublés. Bon, on va dire qu'ils ont toujours été plus ou moins troublés. Où ces questions se posent, puisqu'on a une puissance hostile qui héberge la plupart de nos entreprises technologiques.
Et pas que. C'est là où c'est encore plus inquiétant. Donc on va parler un petit peu de souveraineté dans le cadre du numérique et surtout là, le petit contexte pour parler de ça. Alors outre le fait que j'ai eu des discussions rigolotes avec des amis ces dernières semaines, on va parler un tout petit peu d'Union européenne et du règlement relatif à la cybersécurité qui aujourd'hui ne s'intéresse pas du tout aux questions de souveraineté. C'est la cybersécurité, oui, mais pas la souveraineté, on s'en contrefout. Alors qu'il y a une vraie interrogation là-dessus. Si je ne dis pas de bêtises, il y avait un ensemble de pays, donc la France, l'Italie, l'Espagne, qui voulaient qu'il y ait un niveau I+, donc un niveau supérieur plus, ou élevé plus, peu importe comment vous le traduisez, qui prennent en compte un critère en fait, de souveraineté numérique. Et l'Allemagne et les Pays-Bas ont refusé ce niveau-là en le considérant comme exclusif et susceptible de freiner l'innovation. Ce niveau-là, LV+, a été considéré par les États-Unis comme en fait étant une menace pour leur sécurité nationale.
Donc notre sécurité européenne est une menace pour la sécurité nationale des États-Unis selon eux.
Tout à fait. Donc, de quoi qu'on cause quand on parle de souveraineté, et on va prendre de beaux exemples. Connaissez-vous les avions qui lâchent des petites bombinettes de marque française? Les fameux Rafales.
Oui.
Donc, ils sont fabriqués par quelle entreprise?
Par Dassault, monsieur.
Dassault, comme les chars. Donc, Dassault. Dassault, qui est une entreprise qui a besoin de services cloud et ce genre de choses, évidemment. Et encore là, je prends que des informations qui sont publiques. Nous avons un cloud souverain, Cocorico, Bleu Cloud, avec bleucloud.fr. J'adore le nom qu'ils ont choisi, hein, c'est franglais. Voilà, on fait du français au début, de l'anglais à la fin, ça fait Bleu Cloud. Alors, le Bleu Cloud, Bleu. Alors, je cite leur site web. Bleu est une entreprise de services cloud française. Il faut savoir quand vous faites vos phrases, indépendante, fondée par Capgemini, on reparlera d'eux, et Orange. Nous offrons les services de collaboration et de productivité Microsoft 365 ainsi que les services Microsoft Azure dans un cloud français sécurisé, ayant vocation à obtenir la qualification SecNum Cloud 3.2 de l'ANSI. Alors, on va décoder le baratin, mais juste pour parler de Dassault. Le lien avec le fabricant d'avions, tout simplement, Dassault Aviation choisit le cloud de Bleu, s'est mis en avant sur leur magnifique site. Donc Dassault, je rappelle, petite PME française qui fait les avions qui font des booms. Alors, déjà, moi, il y a le premier paragraphe, ayant vocation à obtenir la qualification SecNum Cloud 3.2 de l'ANSI. Moi, tout est dans le « ayant vocation », ça veut dire « on l'a pas ». On aimerait bien l'avoir, on
peut
essaye.
L'avoir en ayant ses serveurs en France, mais des services basés sur Google.
Déjà, il faut réussir à l'avoir. Maintenant, s'il te plaît, ne casse pas mon sujet tout de suite. Donc, effectivement, ce niveau-là, le SecNum Cloud 3.2, il a des exigences supplémentaires. Vous devez avoir une vraie maîtrise de l'infrastructure. Même si vous utilisez des logiciels en provenance de l'étranger, vous devez avoir une véritable maîtrise du truc. Alors, je ne vais pas vous faire tout un pataquet sur ce que c'est SecNum Cloud, c'est des normes infâmes à lire. Et donc, là, ils disent on l'aura peut-être un jour. Hein, d'accord ? Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? D'un point de vue, vraiment, on va parler de la souveraineté. En quoi est-ce que ce cloud est mieux que le cloud de Microsoft ? Puisque clairement, ils le disent. On vous resserre la même soupe que Microsoft.
J'espérais que les serveurs sont hébergés en France.
Mais
physiquement.
Mais Microsoft, leur cloud, il y a des serveurs hébergés en France. Quelle est la différence?
Non, c'est une entreprise française qui n'est pas soumise au Cloud Act.
Tout à fait. ça va être la seule différence. Le Cloud Act...
Qui est déjà pas si mal. Enfin, sans vouloir me faire l'avocat du diable.
C'est pas si mal, oui et non. Parce que déjà, on n'est pas sûr... Là, dans le cas de Bleu, on ne sait pas à quel point ils ont une vraie maîtrise. C'est là où je vais aller un poil plus loin. Je vais être joueur, je prends des outils qui sont certes, c'est pas disponible à tout le monde, hein, il faut juste regarder les informations publiques qui sont disponibles quand on a un site internet. Donc je regarde où est hébergé leur nom de domaine.
Ah,
il est chez Gandhi en Europe. Hurrah,
déjà.
Hurrah. Leur mail. Microsoft@outlook.com. Donc ben déjà, c'est perdu. Hein. Tout mail échangé, et je pense tous les mails en interne de bleucloud.fr, sont chez Microsoft directement. Ils ne sont pas en France.
D'accord. Donc c'est toi, de toute façon, on est bien d'accord, c'est pas un Outlook, c'est pas un serveur Exchange hébergé localement. C'est,
ah non, non, c'est...
C'est les serveurs de
là,
Microsoft.
Là, c'est les champs MX DNS redirigent vers les serveurs de Microsoft directement.
Et tu peux encore avoir du Exchange en local. Local.
Oui,
sans bon, chez toi.
Ça se fait de moins en moins. Alors, du coup, bleucloud.fr, la page web elle-même, ah ben, quand même, ils fournissent un service de cloud, ils doivent bien héberger. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on essaye de se connecter à un site web? Donc, on tape www.bleucloud.fr, le navigateur transforme ça en une adresse IP. Et l'adresse IP, du coup, derrière, ben, ça permet de se connecter au serveur cible. Donc, je prends l'adresse IP de bleucloud.fr. Alors, je ne l'ai pas noté. De toute façon, je ne vais pas vous dicter une adresse IP à la radio. Ça n'aurait aucun sens. Et je fais ce qu'on appelle un whois dessus pour savoir à qui qu'appartient cette adresse IP.
Alors, ce sont des choses pour les moins techniques de nos auditeurs. En tout cas, les gens à peu près normaux. Il n'y a rien de... C'est pas du
c'est lieu. Hyper simple.
Voilà, on n'est pas sur du hacking de haut niveau. Hein.
Ah non, on n'est pas sur du hacking tout court.
On vous explique comment faire. Voilà, il n'y a rien de... Il faut penser à le faire. Mais il n'y a rien de
voilà,
compliqué.
C'est...
Et c'est
j'ai pensé à un autre exemple pendant l'émission, pendant le morceau de musique précédent. Je l'ai fait sur le navigateur web de la radio. J'ai utilisé Google pour faire ces recherches-là, et ça marche très bien. Il n'y a aucun outil de piratage. Bref, où est hébergé le site de bleucloud.fr?
Chez OVH.
Non, chez Microsoft. Sur une plage d'IP qui appartient à Microsoft. Donc, bleucloud.fr, votre souveraineté, c'est
comme
un
ça,
peu
si leur infra tombe, ils ont toujours leur site web. Pour
c'est
communiquer
ça.
Sur la raison de la chute de l'infra.
C'est
Pierre, voilà,
ça,
tu n'anticipes
voilà.
pas.
Si on regarde de toute façon les offres d'emploi, il n'y a aucune offre d'emploi qui parle de conception de système ou de maîtrise réelle du système. Il faut juste être un sous-fifre pour cliquer dans les interfaces de Microsoft. C'est ça ce qu'est Bleucloud. Je ne comprends pas en quoi ce serait souverain. J'ai repensé à Dassault, j'ai pensé à un autre truc, alors un petit logiciel qui est développé par Dassault Systèmes, qui est utilisé par énormément d'entreprises en conception 3D, c'est SolidWorks. Je le connais ben, notamment parce que ben, dans mes études, on m'avait appris à utiliser ce merveilleux logiciel dans sa version...
Ah bon ? Demi. On a fait les mêmes ?
Non, non, moi j'avais vu ça au lycée.
Ah d'accord,
et, ouais. Et donc je me suis dit, tiens, est-ce que eux, il y a une version cloud maintenant, d'où que c'est hébergé ? Si ça se trouve, ils l'ont hébergé chez Bleucloud. Amazon. Voilà. Donc, la souveraineté, ben, quand on pense à l'industrie de la défense française, et je pense que Dassault, c'est le fleuron de notre défense, j'ai l'impression, en tout cas dans la plupart des discours, il n'y a pas de souveraineté. Et donc, imaginons demain, on en a parlé il y a 2 semaines, mais on va reparler aujourd'hui, et je pense qu'on va encore en parler pendant encore au moins 2 ans. Il vient à Trump de se mettre la France à dos. Ils peuvent dire, désormais, l'entreprise Dassault Systèmes est interdite d'utiliser les technologies américaines. Dassault Systèmes se retrouverait interdit sur Bleucloud, puisque c'est des technologies Microsoft. Leur propre logiciel serait interdit partout.
C'est-à-dire que même
l'entreprise pourrait s'effondrer. Et les sanctions américaines peuvent cibler des personnes ou des entreprises. Ils peuvent déterminer que, non, désormais, Dassault, vous êtes sur notre liste noire. Terminé. Vous n'avez plus le droit de traiter en dollars. Commercialement, ça fait déjà un peu mal. Et vous avez interdiction d'utiliser des systèmes américains. Démerdez-vous. On va même pas parler, parce que on pourrait encore parler du matériel, ce qui est encore un autre sujet bien complexe, puisqu'on a complètement
abandonné ça. Tu parles de logiciels en ligne ou même hors ligne ?
Même hors ligne, tu n'auras plus le droit de les utiliser. Alors si tu as déjà acheté les licences pour une durée indéterminée, il n'y a pas de problème, mais tu perds le droit de faire des mises à jour. Attention.
Ça peut être gênant.
Ça peut être très
gênant. Ça peut s'appliquer également à toutes les entreprises qui, sur du matériel hébergé en France, des serveurs hébergés en France, lancent des logiciels américains. C'est-à-dire, même si ça s'applique à Red Hat aussi.
Ouais, je sais, ça pique. Mais la différence par contre, ça ne s'appliquerait pas par contre sur du Debian. Et sur du logiciel libre, la différence, c'est que le code est disponible.
Qu'est-ce qu'un logiciel américain maintenant ? Ça, c'est une question.
On ne peut pas facilement parler d'une nationalité pour un logiciel libre, justement. C'est là où la différence est importante. Vous avez accès au code source et vous pouvez recréer le programme depuis ce code source. Et pour conclure aussi, des solutions cloud, genre vous hébergez votre propre Google Cloud chez vous, ça m'étonnerait qu'ils prennent le code source et qu'ils le recompilent à la maison. Je pense plutôt qu'on reprend le code déjà packagé par Google et qu'on l'installe. Ça, ce n'est pas de la souveraineté, puisque vous êtes entièrement dépendant de la fourniture du programme par Google. Et c'est l'énorme différence.
Merci Pierre pour cette mise au point sur les plus belles images de ta vie. Pardon.
SolidWorks, c'était pas de très bons souvenirs, mais moi au bac, quand on m'a récompensé pour avoir réparé les imprimantes de la salle d'examen, j'étais content. Bon,
mais t'as pas l'air de connaître Jackie Quartz.
Ah non.
Troisième morceau de musique dans cette émission, Callie and Dennis, le cœur en vadrouille. Vous écoutez l'écho des gnous sur Radio Campus en 6,6, la radio numérique terrestre à campusil.com.
J'ai le cœur en vadrouille, l'humeur vagabonde vers des chemins de lune. Mon âme abonde, la tête dans les étoiles, le pied léger, je n'ai rien à prouver. Je profite de l'air du temps, comme une feuille emportée par le vent. Ma vie n'est rien qu'une aventure, pas de passé ni futur. J'écris au temps présent mon roman, y a pas plus important. Alors je ris tout doucement. J'écoute tomber la pluie d'argent. J'ai le cœur en vadrouille quand le ciel gronde. Quand ces lueurs pures et les couleurs du monde me hissent vers les étoiles, l'esprit léger, je me surprends à rêver. Alors je file au gré du vent, comme un oiseau vers le soleil. Je vis le temps présent tranquillement, y a pas plus important.
C'était Callie and Dennis, le cœur en vadrouille. Vous écoutez l'écho des gnous sur Radio Campus. Ce sont les dernières actualités avant de nous quitter et de se retrouver dans deux semaines. Donc, sujet souveraineté, on a quand même plutôt une bonne nouvelle, c'est que, bon, vous avez entendu parler hein, du Elf Data Network. Donc,
Elf Data Hub, pas Network.
Pardon. Donc, voilà, donc les données de santé des Français hébergées sur la plateforme Azure de Microsoft, et donc le gouvernement lance un appel d'offres pour remplacer cette solution. Alors, je n'ai pas bien saisi si l'hébergement en France était un acteur français faisait partie.
Alors, en gros, effectivement, ils veulent que ce soit un hébergement en France. Maintenant, et tamponner Secnum Cloud. Maintenant, je te demande, Alexandre, de te remémorer ce que l'on a discuté juste avant le morceau de musique. qu'est-ce qui les empêche du coup de dire « Ah ben on est chez Microsoft Azure, eh ben on va juste migrer chez Blue Cloud, comme ça ce sera souverain.
Bon, » Vous avez ce sera un peu,
Ce sera moins pire. Oh, c'est trop bien. Voilà, c'est de la honte. C'est plutôt que de passer par des entreprises comme on en a. Alors, il y a des OVH, il y a des Scaleway.
Donc, la seule solution, c'est que ce soit, grosso modo, chez Scaleway, OVH, sur des serveurs Linux.
Oui.
On est plutôt d'accord sur l'idée, ouais, d'accord. Hein,
mais... Oui. Donc, mais encore une souverain, fois, je pense pas qu'on parte sur ça.
Alors, pour être souverain, il ne faut pas utiliser de serveurs Microsoft.
Ah non, c'est pas possible.
Même si vous avez acheté les licences, vous êtes dépendant. Et un serveur, évidemment, il faut faire les mises à jour régulièrement. Un poste de travail, c'est sûr, mais un serveur qui est exposé en ligne, c'est encore plus.
De toute façon, j'ai envie de te dire, si Microsoft devait demain, pour une raison X ou Y, interdire à une entreprise en France de fonctionner, ben, il bloque tous les postes de travail de l'entreprise, en fait. Puisque les postes de travail, maintenant, tous, quasiment, sauf ceux qui sont gérés par des super administrateurs système qui ont connaissance du truc ou qui ont les contraintes, les postes de travail, ils appellent la maison. La maison, c'est pas l'entreprise, c'est Microsoft. Il y a combien d'entreprises ont remplacé leur Active Directory, donc leur répertoire interne d'authentification, par un truc externalisé dans le cloud de Microsoft.
En tout cas, on vous fera part des avancées du dossier. Autre nouvelle, une entreprise, Cocorico.
Ah, on va parler de l'ice un petit peu, on va jeter un froid.
Merci.
De rien.
Capgemini, célèbre entreprise de services du numérique, une ESN, terme qui a été inventé parce que SS2I, ça commençait à vraiment très connoter entreprise
d'esclavagisme.
Qui jette ses salariés. Et donc, Capgemini qui donc travaillait avec la Gestapo américaine qui traque les migrants, qui traque surtout toute personne un petit peu basanée, toute personne en fait qui est soupçonnée d'être un migrant illégal, même si c'est pas le cas.
Tout à fait. Donc, ils leur fournissaient des petits services pour les aider à repérer, avec même des bonus financiers ou des ajustements tarifaires basés sur le taux de réussite du fournisseur dans la vérification des adresses des étrangers et la livraison des documents. C'est vraiment... La France a une longue tradition de délation. Je pense que Capgemini en était un excellent représentant.
Ils sont forts, c'est avant d'être envahis, ils le font déjà.
C'est ça. Et du coup, là, ils ont décidé que, on va mettre en vente la filiale Capgemini Government Solutions, la filiale qui développait ça. Ils ont dit,
c'est presque rassurant. Ça continue quand même à foutre la honte à quelqu'un.
Ouais, c'est ça.
C'est presque
rassurant, mais il a fallu quand même qu'ils soient repérés pour qu'ils commencent à avoir honte. Attention, pendant ce temps-là, juste en vitesse, Meta continue de laisser la propagande nationaliste blanche de l'ICE se diffuser sur Facebook et autres.
De toute façon, ils ont toujours été très tolérants avec les nazis.
C'est ça. Pendant ce temps, les employés, par contre, des entreprises, que ce soit toutes les entreprises de la tech, les employés, donc là, c'est Microsoft, Amazon, Figma, Google, PayPal, Panasonic, OpenAI, Oracle, Tesla, HP, Mozilla, tous demandent à leur PDG d'appeler la Maison Blanche et de demander l'arrêt de l'ICE. Enfin, que l'ICE quitte les villes, en tout cas américaines, et que tous les contrats de l'entreprise avec l'ICE soient clôturés. Mais ce serait étonnant que ça fonctionne, malheureusement. Parce que, ils sont tous allés baiser la bague de Donald Trump, pas sans intérêt économique. Mais encore une fois, l'ICE aux États-Unis, c'est un putain de gros sujet. Ça fait. Là, ils commencent à découvrir ce que c'est d'avoir un gouvernement facho d'extrême droite, quoi. Ça doit leur faire un petite découverte de la réalité.
Et il arrive quand même à nous faire regretter George W. Bush.
Ah ouais, mais carrément,
c'est dire.
C'est un record.
Alors, dernière actualité, le plan de continuation de l'actualité. De
continuité d'activité.
De continuité de l'activité, pardon, ou de continuation, ça se dit aussi, du noyau Linux.
Tout à fait, ça c'est une vraie question, alors que qui a déjà été évoquée il y a un certain temps. Le noyau Linux a été créé par Linus Torvalds. Linus Torvalds, aujourd'hui, est âgé de 56 ans. Quand il a créé le noyau Linux, il n'en avait que 22, tout de même. Chapeau l'artiste. Et donc, aujourd'hui, il a encore un rôle majeur dans le projet. C'est lui qui sort les différentes versions et qui intègre finalement, qui a son mot à dire sur certaines intégrations de code, qui tranche des conflits, etc. Il a une importance. C'est son code à lui, son dépôt à lui, qui est la branche principale pour le noyau Linux. Et donc, il y a des vraies questions sur comment faire ben, s'il est absent, comment faire sur, s'il tombe malade, etc., ou s'il lui arrive malheur. Et donc là, il y a enfin un processus qui a été déterminé de manière formelle pour dire qu'est-ce qui se passe
si le dictateur bien-aimé vient à ne pas pouvoir assumer ses fonctions.
Tout à fait. Et donc, il y a quelque chose qui a été posé. Alors, si... Alors, les différents cas sont évoqués selon la disparition de Torvalds et d'autres mainteneurs, ou uniquement de Torvalds, ou la perte de communication, des trucs comme ça. Mais grosso modo, il y a tout un processus qui a été décrit pour déterminer un nouveau mainteneur parmi ceux qui sont encore en activité à ce moment-là. Il n'y a pas un nom qui a été choisi, il n'y a pas un successeur, mais le processus de sélection du successeur a été créé.
En tout cas, il y a un plan.
Il y a un plan.
Merci Pierre. Un petit mot sur l'Ajada, donc les événements autour du livre dans la région. Si tu ne me coupes pas le micro prématurément, Pierre, aujourd'hui...
Je vais essayer.
Atelier libre à vous, donc tous les samedis de 9h à midi à l'OMJC rue Yves de Cugis à Villeneuve-d'Ascq, et c'est franchement pas loin des studios de Radio Campus. Et comme d'habitude, la permanence associative autour du libre le mardi 24 février, donc comme chaque dernier mardi du mois, de 20h à 22h au Café Citoyen, place du Vieux Marché aux Chevaux à Lille, donc des libristes, de boissons équitables et bio, et une ambiance conviviale comme de coutume. C'était le 292e numéro de l'Écho des Gnous. On se rencontre, on se retrouve.
On se retrouve dans deux semaines.
On se retrouve et on peut se rencontrer si vous voulez. Si un jour on vient à une permanence, on y va de temps en temps, c'est assez rare, mais de temps en temps on essaie de faire l'effort.
Vous pouvez aussi nous envoyer des mails, ça marche aussi.
Ça, des cartes postales, on vous donnera l'adresse une autre fois.
Au passage, on a eu un mail comme quoi on a perdu les archives.
Je sais pas si tu nous écoutes,
si quelqu'un a des archives de l'émission, des vieux numéros, n'hésitez pas à nous contacter.
Donc on se retrouve dans deux semaines. Nous serons le dimanche 22 février à 19h comme d'habitude sur Radio Campus 106,6 campuslille.com. et tout de suite vous avez rendez-vous avec Chupa Pimento. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaitez une très bonne fin de week-end. Au revoir à tous et à toutes.
Au revoir, bye bye.
L'Écho des Gnous, votre guide dans le monde libre. Sur Radio Campus 106.6, le libre n'est pas une jungle. Le livre n'est pas une jungle contre le logiciel privateur. L'Écho des Gnous.